Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 8 mai 2010. Nos programmes pour cet après-midi, à 15h, du reggae avec Zarma Farai, et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le débat politique que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end.
On voit que vous avez des bonnes sources, écoutez, oui, c'est un peu le problème. J'avais des ventes trop merdiques et ça décollait pas. Alors on m'a demandé de rajouter de la violence, du sexe et de la drogue.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport, Ultimatum, Dastrich et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour, 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 bonjour à vous, bonjour Ultimatum.
Bonjour Dastrich, comment ça va?
On a de la belle météo aujourd'hui. Oui, on a de la belle météo, c'est vrai que jeudi il pleuvait, il faisait même pas 5 degrés d'ailleurs à Toulouse, et puis hier... on cuisait bien Place du Cap.
Ah ben oui, il y a Festival BD, donc
voilà, voilà. Alors je sais, on aurait dû être en direct du Festival de la BD, voire même on avait prévu de faire une émission en différé si jamais on n'avait pas la possibilité. C'est des raisons qui me sont propres. Tout est de ma faute. Voilà, c'est pour ça que l'émission n'a pas lieu à la Place du Capitole. En direct et en public ou en différé. Enfin, pardon, comment on dit déjà maintenant dans les émissions musicales sur France 2
En direct?
Non, c'est en duplex différé, un truc comme ça.
Décalette duplex.
Voilà, exactement. ça se fait pas. Du sport n'est pas là. Il a décidé de prendre une petite pause. Moi, ma pause, je vais la prendre samedi prochain. Je sais pas si toi, tu seras là pour l'émission.
Non.
Pour la suite, non plus. Ah oui, je crois qu'il y a une histoire de carton. Et plein d'autres choses. Oui, vous verrez qu'avec un carton, on peut faire jouer plein de chats. Et c'est rien à voir, absolument rien. Bref, aujourd'hui, c'est le festival... moi, j'appelle ça un salon, vu la taille, de la bande dessinée à Toulouse, qui a lieu en ce moment à la Place du Capitole jusqu'à demain, avec une entrée libre, bien sûr, des libraires, des auteurs, des expos, et plein de choses. Et même, je crois savoir qu'il y aura... Aussi des petits événements, c'est-à-dire il y aura un petit peu d'animation et tout ça. Dommage, on n'y sera pas.
Des concours de cosplay? Non. Non, c'est pas le même genre.
Je crois qu'il y en a qui sont dans les trucs médiévaux et tout, c'est pas trop mal. Hein,
en Lolita, tu veux dire?
Shut up, you crazy bitch. Voilà, ceci dit, il n'y a pas que ça dans l'agenda. Figurez-vous que ce week-end, il y a les 11e rencontres du livre et du vin. C'est à Balma. Là, c'est du livre sans images, principalement. Et du vin à boisson à consommer avec modération et qui est alcoolisé à 10 degrés minimum. Avec pas mal d'auteurs qui seront présents. Président d'honneur, c'est Dany Laferrière qui est né à Haïti. Plein d'autres choses. Il y a Bernard Maris, tiens. Est-ce que tu vois qui c'est?
Bernard Maris.
Oncle Bernard.
Non.
C'est un professeur d'économie qui est entre autres d'ailleurs chroniqueur à France Inter, à Charlie Hebdo et co-actionnaire de Charlie Hebdo, mais qui fait des chroniques très intéressantes. Je suis sûr qu'il doit avoir un bouquin sous le bras sur ce qui se passe et tout ça, qui doit être assez amusant. Nimrod, Jackie Noudila, Greg Lamazière, Hervé Lecor, Sébastien Lapac qui est essayiste, Serge Joncourt qui a fait un excellent bouquin que j'ai pas encore lu, L'homme qui ne savait pas dire non, et Hervé Joubert, auteur de romans fantastiques, et plein d'auteurs. Mouloud Akouch qui fait des romans pour adultes principalement, plein d'auteurs. Je vous invite à aller, mais malheureusement c'est sur le site de la mairie de Balma et c'est un petit peu le bazar dedans pour s'y retrouver. Donc c'est autour de l'écriture et du vin. Vendredi 21 mai à la librairie Album Augébois, Comin sera en dédicace pour sa nouvelle série chez Drugstore qui s'appelle La Cité de l'Arche. Mais dans l'immédiat, on revient sur la place du Capitole avec donc le festival de la bande dessinée à Toulouse, avec en auteur invité Jacques Azam, Joël Azara, Becca, Paul Coé, Chris Cossu, Brice Cossu, Coyote, Dabsin, je l'ai bien prononcé Coyote.
T'as dit Coyote. C'est Coyote.
Ah, c'est con. De Vig, Raphaël Drommelschlager, Serge Ernst, SP, Franck P, Christophe Gibelin, Sébastien Goetals, Gany Jacoupi, Alain Grand, Jeff Huglabiano, Benoît Lacoux, Eric Lambert, Langlois, Pat Mills, Jean-Luc Malasbou, oui, il y a Pat Mills à Toulouse, Marc Guessant et plein d'autres auteurs, Eric Stalner, Patrick Sobral, Wessengel, ce serait très long de tous ces annoncés. Donc si vous nous écoutez actuellement en direct sur Radio FMR 89.1 Toulouse ou sur le stream de Radio FMR www.radio-fmr.net, vous allez sur le site internet de l'émission qui est supplementweekend.fr. Vous allez dans nos chroniques, c'est en haut à droite, et en tout premier, c'est pas une chronique, c'est le lien vers le festival BD de Toulouse avec le programme de l'édition 2010. Avec deux interviews de trois auteurs, hein, du coup, que l'on a essayé d'avoir depuis un certain bout de temps. Donc hier, on les a rencontrés. On pensait faire plus d'interviews, mais la première d'entre elles, celle d'Alim Mahmoudi, est une interview assez longue, assez poignante, assez intéressante, assez politique. Hein. Il faut pas suivre toutes ces... Non, pardon, j'ai pas dit que je le ferais. Non, on est en une émission cas, de droite, pas... voyons.
Oui, donc, en tout cas, c'est une interview uncut que nous n'avons pas coupée.
Ouais, complète. Donc, c'est une interview qui est très longue, qui dure plus de 36 minutes. Donc, peut-être qu'elle va être un peu trop longue pour tout le monde. Donc, on va commencer en fait par un break musical exprès pour. Parce que sinon, ça va franchement être lourd. Voilà, et je ne peux remercier que toute l'équipe de la librairie Terre de Légende et Jean-Pascal aussi, enfin kudos à l'ensemble de l'équipe, ainsi que Kinou qui s'était mobilisé pour qu'on fasse émission là-bas sur place, et la mairie de Toulouse. Ça s'est pas fait, voilà, c'est un échec total et j'en assume l'entièreté de cet échec et me retire définitivement. Non, on va pas se faire cette blague, non, c'est idiot, c'est stupide. Allez, petit break musical pour commencer. Face No More. Oui. Et Booyah Tribe, Another Body Murderer. C'est extrait d'un film qui n'avait pas eu beaucoup de succès à l'époque. Ça s'appelait Judgment Night. Du sport, on parle de temps à autre. Il dit c'est la nuit du jugement. Et ça passe de temps à autre sur certaines chaînes du câble. C'est dommage. C'est un film qui est pas trop mal. Surtout pour la prog musicale absolument hallucinante. Où le producteur de la bande son a dit eh ben, je mets un groupe de rap et un groupe de heavy metal ensemble et voyons ce qui se passe. Et ben ça donne ça.
Another body murder. deals to make a kill. And anyone looking gonna get that ass killed. I'm living like a criminal with criminal I be. And I'm respected in the hood like a G. But if they think about stitching, then they gone. I'm taking off their heads with the motherfucking chrome. I gotta pay to play the play to get through. And I ain't through till I'm dumping on a fool. I see the fool running and running, but where they going? Had the wits in my murder, now they know it. Would they blast or blast or let them pass? I had to think that my life was going in a flash. If I wait to take it longer, that I'll be my ass. Searching for these fools while I'm stepping across the grass. Cause they can't hide and hide, and that's real. And once you jump with it, with your eyes got you killed. Another body murder. Bang your head to this. Another body murder. I'll have to get it together to watch your body get murdered. I'll have to get it together to watch your body get murdered. Bang your head. Come on. Bang your head. Bang your head. Bang your head to this. I see a fool wanna try and test the fool. I testify that the fool will have to lose. Fool, you try, better keep it low. Cause the brother that was shot with my motherfucking Uso. As I been with my head up, round and proud, some more games of my life. And then I get up, all these busters on my trail. Wanna get where I'm at, but they fail cause they can't fail. I keep failing. I've been slaying my shit ever since they had me jailed in. But it ain't all about serving time. It's all about breaking down the bird and serving mine. Another pass, I'm passing. You wanna pass by the rim, then the king start casting. All these fools throwing up things time. They try to test mine. They never get the reply. For how long can you last? When the gangster like the rim, keep smoking that ass. Bang your head to this.
Face No More, Booyah Tribe, Another Body Murdered, extrait donc de la BO du film Judgment Night. À l'époque, les groupes de rap étaient plutôt revendicatifs et vendaient pas des chaussures à l'époque à leur effigie.
Okay.
On va commencer avec une BD dont on vous en a pas parlé vraiment très régulièrement depuis novembre, Arabico. Le premier tome de cette trilogie s'appelle Liberté et est sorti, si je me trompe, chez Quadrant, où Ali Mahmoudi apporte ses réponses au débat sur l'identité française. Bon, c'est dommage, c'est juste dommage que les chroniqueurs politiques et tout ça ne s'intéressent pas aux livres qui ont des images dedans. Ali Mahmoudi est un dessinateur de presse qui vit à Toulouse et on imagine à son nom et au quartier qu'il décrit qu'il n'a pas eu une vie facile tous les jours. Illustrateur, caricaturiste, collaborateur à Intramuros, à la Gazette de l'Utopia, il a ensuite emménagé au Québec où il travaille pour la presse nationale sur place et a très bien été conseillé par Gis Loisel. Et il nous a envoyé ce pavé en pleine gueule, la vie d'un collégien dont le surnom porte le poids de ses origines, où il croise quotidiennement une police prompte à contrôler n'importe qui, mais bah, bien sûr sur n'importe quel hasard. Où son père est en prison, sa mère a fort à faire, et son frère, diplômé Bac plus 5, doit être le seul de sa promo à ne pas trouver d'emploi. Alors imaginez l'angoisse de ce gosse de 13 ans, né sur le territoire français, de nationalité française, le jour où il perd son carnet de correspondance, mais surtout sa carte d'identité qui était dedans. Alors qu'on parle de rencontre express, alors qu'on parle de reconduite express à la frontière et de mener au poste de police d'enfants de 13 ans au-delà de certaines heures. Évidemment, qui peut comprendre son angoisse. Avec les déclarations de cet immigré auvergnat qui est Brice Hortefeux ou ce socialiste d'origine qui est Éric Besson, le débat sur l'identité française, soi-disant ouvert à tous, ne pouvait tomber en pire collision avec cet album. Car plutôt que de poser la question « qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas français ?», il aurait été plus juste de poser une question sous un autre angle. Pourquoi, alors que vous en avez le statut, ne vous sentez-vous pas citoyen français ? Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de ce papier d'opinion dans le journal Le Monde, le premier écrit par un de leurs journalistes non éditorialistes, moi Mustapha Kessous, journaliste au Monde, est victime de racisme. On aura beau avoir les diplômes, Travailler au mérite dans une entreprise recourue, rien n'efface un nom, une couleur, les traits de visage, une origine contrôlée. Pourquoi avoir honte de ses racines, de sa langue, de ses parents et de sa culture ? Chacun des titres de ce triptyque reprendra une des devises de la République française, ce n'est pas un hasard. Donc si l'identité nationale doit être un débat, ce sont ceux qui souffrent de ces mots qui doivent en avoir en priorité la parole. Et cette BD est sortie à un moment idéal pour en parler. Arabico, scénarisé et dessiné par Alim Mahmoudi, on l'a rencontré hier, place du Capitole, là, et il est en dédicace ce week-end.
Alim Mahmoudi, bonjour.
Bonjour.
Bon, la dernière fois, ça a été trois fois loupé cette interview. J'espère que cette quatrième, c'est la bonne. Honda en face de toi. Et oui, on voit, tu mets ta casquette, soi-disant c'est pour le soleil et tout. Non, mais on sait très bien, tu es arabe.
C'est pour passer incognito surtout. Ouais.
Ok, 3-4, on la commence. Alim Mahmoudi, bonjour. Donc tu as commencé comme illustrateur de presse sur Toulouse. Est-ce que tu peux rafraîchir ma mémoire complètement catastrophique?
Sur le dessin de presse, mes origines. J'ai commencé le dessin de presse tout petit en faisant pour certains journaux régionaux. J'ai toujours pas dépassé le stade d'ailleurs du dessin régional parce que le milieu de dessin de presse est difficile à percer. Donc voilà, je fais des dessins de presse de temps à autre. La BD reste le premier gagne-pain actuellement. Voilà. Et après.
Tu es parti après au Québec. Comment tu as été reçu professionnellement au Québec? C'est-à-dire, est-ce que on t'a vu vraiment comme un jeune qui venait de France, qui avait un petit peu d'expérience, ou c'était non le travail au québécois d'abord?
Oui, j'ai pas vu Jean-Marie Le Pen là-bas, mais on m'a d'abord pris comme un vieux. Parce que les Français qui arrivent là-bas sont du genre vieux jeu, enfin c'est ce qu'on dit, un râleur, etc. Donc j'échappais pas à la.
C'est une bonne description de Régis Loisel, ça.
Non, c'est. oui, bonne description de Le Pen aussi. Et puis, qu'est-ce que je peux dire de bien sur le Québec? Parce que tout est bien, alors c'est dur de dire quelque chose de bien. Enfin, c'est un peu. Non, si j'ai percé là-bas, en fait, voilà. Parce que là-bas, on te prend même sans montrer le CV, etc., sans avoir un nom derrière. C'est le bon côté du système libéral que je déteste. Mais ce bon côté, voilà. Donc on est obligé de. Voilà. Et donc c'est un peu putassier, mais je pense que pour il faut dessiner un peu pour tous les journaux, donc j'ai dessiné vraiment pour des nationaux là-bas, et en revenant en France j'ai été rétrogradé, donc j'ai redessiné pour des régionaux. Voilà.
Ligue 3, ça fait peur. La surprise très désagréable de Arabico, c'est le dessin très fin, innocent, qui pourrait aller à n'importe quelle série jeunesse, et pourtant à la lecture la déprime qui nous gagne, qui démonte littéralement.
Oui, ça aurait dû être vendu avec une corde. non, plutôt avec un cocktail. Mais qu'est-ce que je peux dire? Elle est, c'est con à dire, mais elle est pas si sombre que ça. Parce que pour ceux qui y vivent, quoi, ceux qui y vivent, c'est l'esprit hip-hop, l'esprit urbain, tout ça. Ça fait que parler mais revendiquer, c'est vindicatif, c'est noir, amer et sans sucre souvent, et moi j'aime bien ça. Mais aussi il n'y avait rien à dire de très champêtre, quoi. Sinon ça aurait été jouer le jeu de la bonne culture, tu sais, celles qui ont un salaire en fin de mois, ceux qui se posent pas de questions, ceux qui transforment les urgences en enjeux. Et qui voit derrière des enfants qui meurent de faim ou des juste des chiffres et tout. Non, il n'y avait aucun intérêt à ce que ça soit. Et effectivement, oui, la BD est très enfantine. Enfin, hein, le graphisme. Ouais, il est accessible et tout ça. Je l'ai voulu comme ça, ouais, pour dire merde au monde de l'enfance, quoi. Merde au monde. Enfin, c'est pas que j'aime pas l'enfance, mais c'est pour dire que l'enfance dans une cité. C'est pas glauque, hein. En soi, c'est le gamin, il s'y est fait, quoi. Pour lui, c'est pas une cité en dangereux, c'est en danger, quoi, plutôt. Donc, et il s'en aperçoit. Il y a que des gens qui sont en danger. Et vu de l'extérieur, ça paraît être des gens dangereux. Enfin, là où tout.
Alors justement, tu parles de ton graphisme. On voit du crayonné, il y a les traits noirs qui sont vachement présents, il est parfois épais, et on sent derrière chaque case ton passé de dessinateur de presse, mais en même temps on sent que le style reste en retrait. Est-ce que t'as beaucoup tâtonné pour trouver ce rendu juste entre un dessin revendicatif et un style justement en retrait?
Ouais, j'ai tâtonné à mort, hein. Ça a été la cause de pas mal de retard sur le premier tome. Et parce que quand on fait une première BD, on se dit ah ça doit être propre, ça doit être bien, ça doit être. Donc j'ai fait une BD fantasmée au départ et j'ai repris 20 pages de la totalité du tome 1 parce que j'ai dessiné sur une table graphique pour essayer de faire du propre. Et
hein, c'était trop propre.
Ouais, et puis c'était contre nature en fait. C'était complètement. Je souffrais en fait en faisant cette BD. Et donc je me suis rendu compte qu'il fallait s'amuser aussi pour la faire. Et voilà, donc j'y suis allé plus naturellement. Et après, le style reste quand même en retrait parce que c'est mon premier album, donc je pense que vraiment j'ai eu des doutes, j'ai peut-être pas cru en moi, peut-être j'en ai aucune idée encore. Mais je m'en suis rendu compte hein, que je restais en retrait et que. Et puis c'est comme il y a eu du retard de prix, il a fallu que je dessine un peu plus vite aussi. Je le regrette pas, hein. C'est juste que c'est un album laboratoire un peu quand même, vachement. Et je le regrette pas parce que au moins je suis allé au bout de ce labo. C'est curieux, hein. C'est je suis allé au bout d'un truc inachevé. Voilà.
Le gros casse-tête.
Alors, quand le garçon parle avec sa famille, tu as placé quelques termes arabes dans les bulles, mais certaines phrases restent en français. Alors, est-ce que c'est par manque de place ou est-ce que c'est pour pas alourdir le va-et-vient vers les traductions?
Ouais, c'est pour pas alourdir le va-et-vient vers les traductions et pour pas faire chier avec mon Georges Méconnais, etc. Et on parle un peu arabe, un peu français dans les quartiers, etc. En famille. Mais non, j'alourdis pas. Pour. Voilà, c'était juste pour ça, quoi. C'était des mots histoire de montrer. C'est vrai que s'il n'y avait aucun mot, si tout était en français, je pense que la mise en situation serait peut-être moins bonne. Et là, quelques mots rares m'ont baigné un peu plus dans. C'est comme mettre un portrait du prophète sur le mur, en train de lire le Coran. On y est, quoi. Ça fait partie du. Donc, c'est plus un assaisonnement, il n'y a rien de. Obligatoire, parce que l'assaisonnement, il est là au tome 2 aussi. Donc. C'est je sais pas, c'est pour donner un coup au côté un peu plus maghrébin, un peu plus arabe.
Alors au lieu de justement prendre le parti pris de faire une BD sur une communauté qui veut absolument s'en sortir et tout, bon c'est aussi le cas, mais en fait toi, tu traites pas du tout ça, tu traites surtout du problème d'identité du gamin. Et excuse-moi, il y a un peu de vent. Et lui veut juste vivre sa vie et il est vachement passif pendant tout l'album. Et la seule fois où il fait preuve d'initiative, ça lui retombe dessus. Et quand il s'affirme, c'est pour résister aux flics qui l'interrogent. C'est un ton que tu vas reprendre aussi dans les deux prochains tomes où ça va aller crescendo au fur et à mesure qu'il va prendre conscience de certaines choses.
Alors oui, il s'affirme face aux flics parce que. Il a pas peur d'eux, enfin, il a appris à les haïr et puis vraiment, on les hait quasiment tous, quoi. C'est presque plus facile d'être. On les voit pas comme des êtres humains, enfin, on trouve ça inhumain, inimaginable de faire flic. Enfin, bon, je passe là-dessus. Bon, il y a bon flic, etc., mais c'est tout un débat après. Et sur le tome 2, ça va. Le personnage est différent. On le trouve, on sait qu'il est. C'est 10 ans plus tard, et on sait qu'il a grandi. Mais alors, il a grandi, il a plus les mêmes traits de caractère, plus les mêmes. Il a la même expression faciale et tout ça, mais on peut plus. Il a tout perdu, quoi. Des illusions, des. Mais c'est plus parce qu'il est maussade, il est au sortir de l'adolescence et tout ça, donc. Après, quoi dire sur le fait qu'il soit affirmé, il va l'être tout le long du tome 2, mais il va se gourer. Bon, si vous voulez savoir, le tome 2, c'est. C'est l'échec. Non, si, c'est l'échec. Voilà. C'est il va foncer droit dans le mur. C'est l'échec de A jusqu'à Z. Quoi. Il va s'affirmer, mais pas comme il faut. C'était l'idée.
Est-ce qu'il y a eu des séries, des BD, des films, des romans qui t'ont touché au point que tu t'es dit ouais, c'est vraiment cette impression là que je veux laisser dans ma BD.
Dans ma BD dans Arabico. Ouais, spécifiquement non, je veux laisser une impression nouvelle en fait. Enfin, c'est pas pour Ou alors, non, c'est plus par rapport à une pensée. Voilà. Je pense à l'impression que je veux laisser, c'est Peter Watkins, les films qu'il fait. C'est, ça donne une impression de comment dire. C'est plus qu'anarchiste. C'est ou c'est anarchiste peut-être tout simplement. C'est pas anti tout. C'est comme Malcolm X disait, libère ton esprit par tous les moyens nécessaires. Voilà, c'est l'impression que je veux laisser. C'est d'un truc qui appartient même pas à. C'est même pas le héros va se libérer du quartier, c'est même pas il va se libérer de la France, il va même pas se libérer de son pays d'origine, il va même pas se libérer de je vais exploser tous les cadres et puis dire que il va juste se libérer tout court quoi, il va. C'est un gros merde à tout, on va dire. Voilà, globalement la trilogie quoi. C'est il y a une réaffirmation je sais pas ce que je pourrais citer. Alors il y a Peter Watkins. Il y a une chanson de Nina Simone, la Feeling Good, où elle dit la liberté est la mienne et je me sens libre ou un truc comme ça. Parce que ça, c'est sa liberté, quoi, c'est la sienne. Non, c'est farouchement solitaire. En rap, il y a Rosé qui exprime très bien ce que Arabico va être. Ça vole au-delà du. Enfin, cette pensée, je dis pas Arabico, mais ça vole au-delà de toutes les barrières qu'on peut mettre. Quoi. J'ai pas envie de. C'est de ça revendique tout et rien. Voilà. Ça revendique rien parce que ça veut faire partie d'aucun parti, d'aucune religion, d'aucune. Et ça revendique tout dans le sens où ça veut tout posséder maintenant, quoi. Et pas. Et en soi, c'est profondément anarchiste dans la pensée, quoi. Dans la. Alors c'est le trajet d'un petit gamin qui va aller vers ça parce que rien ne poussait à ça. Il a grandi dans musulman, il a pas réussi. Arabe, c'est caduque. Français, encore plus caduque. Voilà, aucune gamelle, quoi. Il ne peut manger dans aucune gamelle. Il va manger dans la sienne et le goût va lui paraître bien meilleur.
Ouais. Forcément. Comment le premier tome donc de ta trilogie, puisque Arabico est une trilogie qui reprend à chaque fois l'un des termes des frontons des tribunaux de justice, comment a-t-il été perçu par le lectorat justement qui vit dans ces banlieues dites difficiles ?
Il a été super bien pris, super bien, même.
Tu veux dire qu'il lise des BD ?
Mes amis en tout cas. Et non, puis quelques journalistes des courriers de l'Atlas, un magazine communautaire spécifiquement maghrébin de France, là, Respect Mag aussi. Il a été vachement bien pris hein. Et ça m'a rassuré. Et puis aussi autour de moi quoi, qui m'ont dit ouais, c'est bien, t'as dit tu t'es pas trahi, t'as dit. C'est malheureux hein, parce que c'est une pensée qui, pour peu qu'on tende l'oreille. Au quartier, c'est pas une pensée nouvelle. Mais bon, comme les quartiers sont un laboratoire, c'est un peu la Russie en France, quoi. C'est le laboratoire de ce qui va se passer plus tard. C'est marrant. C'est pour ça qu'on me dit « Ah, c'est vachement sombre !» J'ai l'impression que c'est plutôt en avance. C'est pas pour dire que je suis visionnaire, c'est juste pour dire que... Tant, en ce moment, on dirait que la France se rend compte que les gardes à vue, c'est inhumain. Ça fait 20 ans que c'est inhumain, les gardes à vue. Enfin, c'est même plus que ça. Donc, j'ai l'impression que c'est un laboratoire. Les quartiers, comme la Seine-Saint-Denis, là, c'est ce qui va se passer en France dans 20 ans quoi. C'est un nivellement vers le bas et puis tout le monde va, la précarité va toucher tout le monde, elle va se démocratiser, elle va se... Je crois que les gens, au lieu d'en avoir peur des banlieues, ils devraient plutôt en prendre exemple et puis se dire voilà ce qui nous attend. C'est exactement ce qui va se passer. C'est la Seine-Saint-Denis, c'est l'état de la France dans 20-30 ans quoi, si on n'y fait rien du moins. C'est on se fait baiser jusque pardon. Ouais.
Rien à foutre, on a même pas bipé donc vas-y.
Bon, on se fait profondément enculer depuis longtemps et ça va être et je pense que voilà, c'est l'avenir de nous, on y va avec le sourire hein, maintenant on n'a rien à perdre donc de toute façon on n'a rien à gagner puisqu'il y a un plafond de verre qui nous empêche d'avoir des emplois au-delà du cadre etc. Enfin bref, il y a tout un, on est vraiment dans une merde pas possible et mais bon. Ouais, ça nous fait franchement marrer quand on voit des gens manifester dans la rue, etc. On en est à un autre stade, on a reçu une autre violence et on voit se généraliser ça. Les gens perdent leur emploi, râlent pour leur corporation. Ouais, c'est marrant. C'est... Après, on va pas s'étonner qu'il y ait 80% d'abstention dans les quartiers. C'est parce qu'on sait exactement ce qu'il y a dans le cœur.
Tu veux dire que justement, c'est tous les partis revendicatifs du socialisme jusqu'à l'extrême gauche qui sont des partis
profondément ouvrier, comme il n'y a plus justement cette classe sociale là, que il ne peut pas avoir un parti d'une classe, je vais dire, entre guillemets ethnique.
Ouais, ou alors on est, ouais, c'est ça. Il peut pas y avoir de parti, c'est impossible. On peut pas s'acoquiner avec la politique. Après, je comprends les ceux de gauche, les radicaux de gauche et tout. Ils essayent quand même. C'est bien. Il faut, comme on dit, pour péter le système, faut rentrer dedans, etc. Mais en même temps, faut avoir les moyens. Besancenot a les moyens. Il fait postier, il a un salaire tous les mois et tout. Donc, je lui en veux pas, hein.
À Neuilly, le quartier hautement sensible.
Ah oui, ah je savais pas, mais. Mais voilà, moi, tous ceux qui ont un salaire, c'est comme les assistantes sociales qui venaient à la maison et puis qui nous faisaient la morale sur, enfin surtout à mes parents, quoi. C'est marrant, mais ils ont juste détruit l'autorité parentale, quoi, devant nos yeux, en donnant des conseils à mes parents. C'est des trucs, on le voit tout ça, c'est factice. C'est donc la société, enfin le parti politique, non, ce serait comme dirait Normand Baillargeon, nous, ce qu'on veut, c'est l'ordre moins le pouvoir, quoi. Voilà, c'est juste ça. Et comme on demande trop, d'un coup, c'est peut-être un peu. On porte derrière nous l'Afrique, on porte. Il y a Frantz Fanon qui disait qu'il ne faut surtout pas suivre l'Europe ni l'Occident. C'est un système qui est en train de se manger. On n'en veut même pas à la colonisation, là où il y en a qui se disent oui, la repentance, vous chialez, toujours en train de se plaindre, etc. C'est même pas ça. Ce qu'on voit, nous, quand on voit des gens aller bosser, c'est des gens colonisés. Parce que 5 jours par semaine, c'est de la colonisation. Hein. Un emploi du temps de merde qui commence en 6e avec on te prend tout ton temps, etc. On va te demander de payer tes impôts, etc. sans te dire ce qu'on va faire avec ton fric et tout. C'est de la colonisation. C'est des. Donc. C'est pas de la violence, c'est juste que. Quand t'as rien eu, finalement, t'apprends à te servir de tes propres. Y a que des anarchistes dans les quartiers, c'est vachement chouette, hein.
Alors, excuse-moi, ça va peut-être te choquer, mais enfin, nous on voit ça un peu de l'extérieur, puisqu'on n'habite pas dans les banlieues ni rien.
Enfin, on est blanc, quoi.
Dans ce premier tome, alors les flics sont violents, les blancs sont méfiants envers les maghrébins, les journaux ne parlent que d'immigration. Comment nous on voit ça de l'extérieur? Est-ce que franchement t'as grossi le trait par rapport à ton vécu, ou est-ce que c'est vraiment ça? Et
Alors, est-ce que j'ai grossi le trait? Non, je l'ai pas grossi, c'est notre ressenti. Non, honnêtement, j'aimerais dire, au début, ouais, j'essaie de m'excuser un petit peu, mais finalement, non, quoi, je peux pas. C'est signe, parce que, à force de céder du terrain, en fait, on dilue notre discours. Et mon discours n'est pas différent de celui de La Rumeur, de Cazet, de Rosset, de. C'est-à-dire que les flics sont tous pourris dans le sens où le système policier est pourri. Si par exemple, je disais, les juifs sont tous des pourris, je me sentirais mal, parce qu'ils n'ont pas choisi d'être juifs. Et je le pense pas, pourtant. En plus, je le pense pas, parce que c'est pas vrai. Il n'y a pas un système conscient de destruction. J'y crois pas, ça. Et par contre, oui, j'y vais avec le cœur en fait quand je dis les flics sont. Enfin, c'est que de la merde, dans le sens où c'est le système policier. Quand on arrêtera de leur donner le droit de réserve, leur donner le qu'est-ce quoi? Le droit de réserve, c'est interdiction de parler ou de remettre en cause la hiérarchie. Quand ils arrêteront de s'appeler fraternité, un terme sectaire, quoi. La scientologie peut s'appeler fraternité, mais une corporation du métier. Qu'il y a quoi d'autre? Force et honneur. Enfin, c'est que des trucs qui font peur, quoi. Réfléchir, c'est désobéir. Enfin, moi, je paye avec mes impôts ces gens-là, quoi. Et je les considère comme des tarés de première. C'est-à-dire qu'un jour, où, comme en Grèce, par exemple, voilà. Prenons l'actualité. On les déclare en faillite, etc. Et après, les CRS tapent sur les manifestants. Enfin, les CRS aussi sont en faillite jusqu'à preuve du contraire. Donc, voilà, c'est qui sont les CRS, qui sont les flics, qui y a derrière, qu'est-ce qu'il y a comme système. Et pour mettre tout le monde d'accord, ça va être simple, le niveau de critique qu'il y a de la part des quartiers sur le système policier, juridique, etc., en font les meilleurs amis du système policier et juridique. Parce qu'on les critique tellement que, comment dire, on est leurs meilleurs amis, c'est que dans le sens où
ils n'auraient pas de raison d'être justement s'il n'y avait pas entre guillemets ce mouvement entre guillemets antidémocratique dans les cités.
Oui, voilà. Et on veut que leur bien. Non, mais c'est con à dire. Hein. C'est qu'en les critiquant avec virulence, on veut qu'ils changent du tout au tout. C'est-à-dire que on serait les premiers dans les quartiers à dénoncer une personne qui va, je sais pas moi, faire du mal à à d'autres, etc. On serait les premiers si seulement on savait qu'ils les envoyaient pas dans une usine de destruction, une usine qui s'appelle la prison, quoi, à faire du criminel, à broyer de l'esprit humain, à torturer. À... On n'est pas d'accord avec ça. On a vu des gens souffrir, tu vois, être détruits complètement, prendre du Lexomil, laisser la télé allumée tout le temps parce qu'ils ont vécu juste avec la télé, être complètement détruits, et ressortir avec l'idée de braquer ou. Et on peut pas être amis avec eux, c'est impossible. C'est par contre, il ferait mieux de nous écouter parce qu'on transformerait le système en système parfait quasiment, quoi. C'est-à-dire qu'on ferait des prisons, des endroits où on peut reconstruire un être humain, où on peut l'aider, où on peut le soigner. Mais bon, comme on a pigé qu'il y a que le rapport de force qui marche avec cet état, on n'est pas écouté quand. Regarde les médias, ils ne retiennent qu'une chose. Dès qu'il y a un clip qui fait parler... Le seul rapport dont on a beaucoup parlé récemment, c'est Morcet. C'est un idiot, ce mec.
Et Orelsan aussi, qui valait guère mieux.
Oui, Orelsan, quoique, bon, moi, j'ai plus compris Orelsan que Morcet, mais Morcet, lui, avec ses pitbulls et machin, et puis Maison La France et compagnie, il n'y a aucun discours derrière, mais voilà, les médias l'ont repris. C'est un excellent coup de pub, ce qu'il a eu en même temps. C'est... Non, on est stigmatisé, on est... C'est vraiment dommage. On est affaibli dans ce discours. Mais je peux pas me permettre de faire Arabico un tome 1 bon chic bon genre, quoi. C'est pas possible. MAP, il y a eu Devoir d'insolence qui est sorti récemment. Dans la première chanson, il le dit. T'as quelqu'un qui dans sa chanson apparaît comme ah j'aime pas le rap, mais pourtant j'aime bien ce que vous faites. Vous ne tombez pas dans la victimisation, etc. Tu entends quelqu'un dire ça et juste derrière t'as le chanteur qui lui répond va te faire mettre avec ta langue française. Tes commentaires à 2 francs et tout. Parce qu'il est revenu vers ça pour dire que c'est de l'urgence et de. On en a rien à foutre qu'on nous complimente sur du. Ah, mais ta BD, mais c'est du Pratt, c'est du. Et je me complais pas là-dedans parce que j'adorerais faire une BD à la Black Sad ou m'amuser, quoi. Putain, tu vas faire des. On a d'autres choses à foutre que de se battre contre notre gouvernement, quoi. On a d'autres choses à foutre que de taper sur la police, quoi. On a juste envie de vivre bien, quoi. Putain, si le jour où ils le comprendront, tu vois, c'est pas normal qu'un citoyen il passe son temps à vouloir en découdre avec son gouvernement, sa police, sa justice. On a autre chose à foutre, on a envie d'aimer des femmes, de boire des bières, enfin, je sais pas, de profiter de la vie. Putain, je perds mon temps moi à essayer à faire une BD à un message parce que j'ai presque envie de faire de la recherche artistique. Hein. J'ai franchement envie de faire du matoti, du créer quoi, créer des émotions vachement belles. Non, je suis... Voilà, mais bon.
Chaque tome de la trilogie, ça va reprendre donc Liberté, Égalité, Fraternité. Est-ce que chaque mot va illustrer particulièrement un album ou c'est juste que tu reprends les trois mots de la devise ?
Ouais, chaque mot va illustrer un album, mais pas de manière bête et aveugle, parce que... Voilà, c'est juste... comment dire, par exemple le tome 2 est plus social, donc il s'appelle Égalité, puis ça corroborait bien le fait qu'il soit au sortir de l'adolescence où la thune ça compte vachement, il va falloir qu'il pense à trouver un taf, etc. Donc c'était vachement Égalité, c'était vachement bien. Fraternité, on s'attend à ce que il est grand quoi, il est censé avoir trouvé sa place. Fraternité veut dire son monde, sa famille, est-ce qu'il a une femme, est-ce qu'il fait des enfants. Fraternité, c'est le sang, la chair. C'est une réponse finale et sans tout dévoiler, voilà, c'est une réponse finale, on va dire. Et je suis convaincu qu'il n'y aura pas de suite, quoi, maintenant. C'est une trilogie, point barre. Mais c'est ça, c'est social. Fraternité, j'arrive pas encore bien à le définir. J'ai bien réfléchi à Égalité parce que j'ai bossé dessus à fond, mais je sais à peu près où je vais aller pour Fraternité, mais. C'est quand on est à fond dedans qu'on... C'est bizarre, c'est comme si je trouvais des mots plus précisément, quoi. J'arriverais pas à défendre un tome qui s'appelle Fraternité. Je saurais raconter dire ce que je vais raconter, mais ça va s'améliorer, quoi. Donc, je saurais dire quelque chose sur la fraternité.
Ça fait quoi de se retrouver, parce qu'au moment où ton album était sorti, il y avait eu le grand débat qui était lancé sur l'identité nationale. Hein, oui, je sais, la question elle date un peu. Hein, ça fait que 6 mois. Mais d'un autre côté, est-ce que tu t'es dit c'est une occasion justement pour que ma BD explique bien justement quel est le problème de l'identité française et pourquoi des gens la question qu'il aurait fallu poser c'est pas qu'est-ce qui fait que vous vous sentez français mais qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas français, ou est-ce que finalement tu dis non, finalement ça n'est que du vent et c'est un débat qui ne peut que me desservir.
C'est par ouais toutes ces questions sont vachement bonnes par strat en fait. C'est déjà cette identité, il n'aurait pas dû avoir lieu ou si, pour montrer à quel point ouais c'est ça, pour bien montrer la société dans laquelle on vit, ça c'est pas mal comme révélateur, mais bon sinon fallait pas. Mais après oui, ces questions sont légitimes, hein. Pourquoi est-ce qu'on se sent pas français, pourquoi est-ce que, même si c'est une perte de temps encore, parce qu'on le sait, c'est un paravent, c'est pour ne pas voir que les problèmes sont sociaux et économiques avant tout. Donc voilà, on montre que ah oui, il faut comment dire, il faut montrer à quel point ils acceptent pas à certains travails, ou à quel point ils, comme si par exemple avoir quelques noirs, quelques arabes ou quelques chinois riches en plus, ça, comme si ça allait apporter de l'égalité. Or c'est faux, c'est archi faux. C'est, on s'en fout que Obama il est président, on en a rien à foutre quoi. C'est l'état de la minorité noire aux États-Unis, elle est toujours la même quasiment. Donc non, c'est l'impression que plus une politique de dirigeants quoi, qui leur sert bien. Et mais bon, pour répondre à la question, oui, c'est arrivé à point, j'étais bien content. Parce que bah, c'est vrai, je suis auteur inconnu, premier BD. Et en fait, j'avais même quelques ambitions de. Enfin, je me suis tellement fait chier sur ce premier tome que j'ai juste l'ambition, au moins, qu'on en parle un peu, quoi. J'étais un peu dégoûté par Libération, tous ces journaux, il y a Politis, tout ça. Enfin. J'ai pas compris pourquoi. Je leur donnais presque un. Je dis pas que j'ai fait une révolution, c'est pas ça, mais bah, c'est le monde de la BD, quoi. Ça a jamais été un monde. Enfin, si, engagé un peu, il y a eu Tardi, tout ça. Mais même Tardi, quoi, il a aucun écho. Enfin. On reste en marge, tu vois. Je sais pas si. Je comprends pas. Ils suivent l'actualité, ils vont nous parler de trucs lointains. Et... J'ai posé la question tellement frontalement, là. En prenant des risques, quoi, en me disant putain, il y aura mon nom dessus et tout. C'est chaud, quoi. Si on me dit ouais, t'es con, t'as été victime, t'es naze, enfin, j'aurais pu franchement y laisser des plumes. Et j'étais franc et tout. Je me suis dit putain, ça serait bien que ce soit un peu relayé et tout. Qu'on se dise ouais, vraiment, il a remis en cause la police à ce point et tout, etc. Puis comprendre pourquoi, il est père de famille et tout. Pourquoi. Non, montrer, mais pourquoi est-ce qu'on en est là, quoi. Bon, bah voilà, non, on m'a relayé au même. Dans les mêmes marches qu'on a mis NTM et compagnie, quoi. Les musiciens de rap, voilà, je suis qu'un gars mal dans ma peau qui a pas trouvé ma place dans la société. Enfin, j'imagine quoi, que ce qu'il y a eu dans Arabico aurait été bon à foutre dans un fanzine, tu vois. Enfin, disons que le peu de couverture qu'il y a eu, pour moi, c'est ça. C'est du. Ça a été relayé. Ah, je trouve que quelqu'un fait l'effort de dire ouais, il tape du poing sur la table et tout, c'était un peu autobiographique, un peu je sais pas quoi, montrer un peu d'intérêt quoi. T'es journaliste dans un journal de, même un musicien hein, qui fait ça, qui se dit qu'il prend des risques et qui va montrer, je sais pas, j'ai pas cherché un équivalent. Ah oui, tiens, Abdelatif Kechiche, le mec il a eu deux fois 4 Césars, meilleur film, meilleur réalisateur, avec L'Esquive, ensuite avec La Graine et Le Mulet, t'as vu. On le voit pas beaucoup, hein. Si on se dit merde, quand même. Enfin, c'est un peu, c'est pas unique dans l'histoire. Je sais pas s'il y en a eu qu'on gagne. Mais lui, quand même, coup sur coup, deux films. Et moi, je le prends pour un gars qui a raflé un truc, quoi. Un peu comme Zidane au foot, j'en sais rien. Et non, tiens, c'est. Il est confiné. Je sais pas si c'est une volonté ou si c'est Peter Watkins, l'exemple parfait. Un cinéaste en or qui se fait boycotter même par Arte là, qui passe la commune une fois à partir de minuit, entre minuit et 6h. Non, il y a un discours acceptable et un autre discours qui ne l'est pas, ça c'est clair.
Je crois. Tu veux faire un pari sur le fait qu'on va pas la diffuser demain à midi, c'est ça?
Non, vous oui. Non, parce que je sais où vous êtes.
Alors justement, parce que tu sais d'où on est et tu sais ce qu'est Radio FMR à Toulouse, tu sais qu'avant il y avait avant le précédent changement de fréquence, il y a une radio qui s'est éteinte qui était fréquence Soleil, qui était très importante dans les quartiers. Je sais pas, Soleil, oui.
Non, j'étais pas au courant.
T'étais pas au courant, parce qu'ils sont arrêtés en fait faute de combattants, parce que plus personne n'avait envie de continuer à parler de la banlieue comme eux ils l'a parlé, c'est-à-dire vraiment comme d'une vie quotidienne. Bon bah voilà, bah écoute.
Que des il fallait peut-être qu'ils bouffent, non? C'était des bénévoles peut-être. Enfin, j'ai connu ça aussi, des projets qui capotent, juste manque de thunes et puis les subventions qui s'amoindrissent. Voilà, disons que les quartiers prennent en premier. C'est pas encore pour dire ah les pauvres quartiers, non, c'est qu'on prend vraiment en premier. Donc oui, j'imagine. Je leur donnais plein de circonstances atténuantes. Hein. Tain, faire une radio, c'est génial dans un quartier. Je pense qu'il y a eu des problèmes plus alimentaires et puis dans le sens non pas alimentaire, il meurt pas de faim, mais c'est bien de jouer le bénévole quoi, comme on dit. Mais...
Bah en fait, d'après ce que j'ai compris, enfin bon, c'est des choses qui sont personnelles que je ne peux qu'interpréter, donc on va pas en parler comme ça sans savoir.
Aussi des histoires, des oui voilà. Non, s'il y a eu des histoires, c'est aussi compréhensible. Non, mais c'est dur. Je dis pas que on n'est pas exemple de tout défaut. Hein. Là, on touche au tome 2 aussi justement. C'est ça. Quand tu me posais la question là. Tiens, le premier, c'est contre les flics, contre tout le monde en prend plein la gueule. C'est vrai que ça fait un peu BD partisante. Et donc je prêche des convaincus et compagnie, et pour tout dire ça rejoint ce qu'il disait sur l'association et tout. Je comprends aussi qu'il y a des rancœurs entre les habitants, ou des coups de pute, mais le tome 2 montrera ça aussi. C'est que mine de rien, quand t'es pas aidé, quand t'es pas désenté dans un endroit, je leur donne pas encore du crédit, mais on se tire une balle dans le pied. On n'est pas méchant entre nous, mais on n'est pas sain, on n'est pas... C'est con, mais c'est Coluche qui avait tenu une rubrique dans Harakiri avant qui s'appelait Les pauvres ce sont des cons. Tu vois, je suis d'accord avec lui dans le sens où on pousse à devenir con, quoi. On devient vraiment con quand on souffre. Et tout le monde, hein, tout le monde le devient. Enfin, faut être sacrément costaud pour ne pas le devenir et tout. Voilà, c'est des. Il n'y a pas des saints dans les quartiers. Il n'y a pas des. Il suffit de voir les émeutes, ou il suffit de voir quelqu'un qui va. Tu vois, les émeutes quand ils brûlent des crèches et tout, il suffit de voir quelqu'un qui va être agressé là par près d'une cité, etc., par des jeunes de banlieue, etc., qui n'ont pas toute leur tête, qui ont peut-être bu un peu d'alcool et tout. Ça s'est passé à 4h, 5h du mat sur Grenoble, là, ce genre de choses. Oui, ça arrive des choses comme ça, mais on peut pas dire à quelqu'un putain, t'aurais pu être sage. Bon, moi je trouve ça dommage, hyper dommage. Hein. Je suis hyper dégoûté, ça nous dessert, ça sert plutôt le Front National, etc. Je suis d'accord, mais. On est dans une société qui va vite nous juger, qui va pas du tout nous laisser parler, qui va dire regardez, à force de manger du mouton, bah ils sont devenus bon, voilà, etc. Quoi. Je suis ni pour les quartiers ni avec eux. Si je suis avec eux, mais sans être. L'idée, c'est j'en sors, tu vois, j'en sors du quartier. Tu peux pas être ami avec quelqu'un, avec un quartier ou avec l'endroit d'où tu viens. Ou, si à chaque fois tu dis ce que tu fais, c'est génial. Oh, je te trouve trop beau. T'as toujours eu le cœur sur la main. C'est pas un vrai ami, ça, c'est qu'un faux cul. Donc, Arabico, c'est ça, quoi. C'est...
D'accord, donc on n'a pas le droit de dire qu'Anima Moody a fait une BD formidable et tout ça.
On n'a pas le droit de dire du coup que t'as fait une BD formidable.
Tu nous as touché, t'en as rien à foutre, on peut pas dire que graphiquement elle est très belle et qu'en plus franchement pour nous elle fera date.
On passe directement à la question con.
Tu crois pas qu'elle est un petit peu hors d'actu là?
Non, pas du tout, on peut pas faire plus dans l'actu que ça. Bon, on a une question à la con. Tes pronostics.
Mes pronostics?
Pour le groupe de
la vie. Putain, le foot moi. Oh, je suis l'arrière, je m'en fous. Attends. Qui a poussé tes pronostics pour le groupe de l'Algérie au Mondial.
Donc je fais le sous-titrage. Tes pronostics pour le groupe de l'Algérie au Mondial 2010, Angleterre, États-Unis, Algérie, Slovénie.
C'est vrai, moi pas comprendre. Non mais j'ai.
C'est les questions à la Thomas. Hein.
Non mais déjà le foot, je m'en branle. Mais c'est quoi dire? Je pourrais dire ce que je pense du foot en globalement. Hein. Non globalement, mais non mais vite fait. Mais à la limite, foot c'est. Ça pourrait être un super bon sport si ça n'avait pas été érigé en symbole de patriotisme. Voilà, ça va faire autant de bien à l'Algérie que ça lui en fera du mal, comme tous les pays. Enfin, faut voir. Enfin, le foot. Enfin, Pardon. Non, mais le foot, c'est, ça peut être un super bon sport, mais voilà, c'est ça. C'est juste comme le basket, mais je trouve que non, un sport doit rester humble, quoi. Tu vois, avec des supporters qui se prennent pas pour ah putain, il y a des sacrés fanatiques, quoi. J'aurais aimé le foot. Je l'ai bien aimé en 98 là, quand il y avait la fête dehors, c'était bien, etc. Mais quand même, faut pas nier que tout excès de joie est douteuse, comme tout excès je me méfie de ça quand même. Tu vois, c'est bon, ouais, c'est tout. C'est alors le foot. Non, je t'avouerai que je suis un peu focu parce que je suivrai quand même si j'apprends que soit la France soit l'Algérie est en passe de devenir en finale. C'est vrai que je serai devant la télé en train de. Parce que je sais pas ce que ça gargarise en nous. Je sais pas encore ce que ça flatte. Mais c'est vrai que ça flatte. On peut pas nier, quoi. C'est comme de dire ouais, ta BD elle marche, elle caracole en tête des ventes, Zep c'est de la merde à côté et tout. Et toi tu te dis merde, t'es obligé de suivre les ventes. Alors que quand ta BD marche pas trop, t'as tendance à dire ouais, les chiffres je m'en branle. S'en fout des chiffres, honnêtement, qui ça. Voilà, non, je suivrai le. Que s'ils vont vers. Ouais, parce que sinon il y a trop de matchs, il y a trop de. J'en sais rien, honnêtement.
Ali Mahmoudi, merci beaucoup.
Merci à vous, et puis et j'avoue que je parlerai pas de la même façon si c'était une autre radio, un autre média.
Ben non, ce sera retranscrit sur AQABD.
Il y a une équipe formidable à AQABD, je les trouve franchement géniaux. Non. Plus honnêtement, ils font un travail formidable parce que je pense qu'ils sont pas tous payés et tous. Et que je les ai trouvés toujours dans leurs critiques très partiaux. Ils sont pas du genre en train de dire c'est de la merde, n'allez pas le. Mais plutôt en train de dire pourquoi ils l'ont pas trouvé excellente. Et c'est bien. Parce qu'il y a d'autres médias qui se permettent de dire par contre eux ah c'est nullissime. On n'a pas le droit de dire qu'une œuvre est nullissime, quoi. On a le droit de dire qu'on n'a pas aimé. Non, parce qu'il y a derrière ça des mecs qui se sont fait chier pendant un an. Tout. Ils ont un respect du. J'ai appris ça en faisant la BD, c'est à être hyper indulgent, c'est à me dire putain, faut respecter aussi le mec qui a réussi à foutre 46 pages parce que c'est pas rien, quoi.
Merci Ali. Et ben voilà, on l'a eu.
Oui.
Il s'est montré faux cul. Non, blague à part, Ali Mahmoudi, vous avez vu que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de choses à dire sur le niveau personnel, qui a vraiment été investi dans, qui s'investit vraiment dans son triptyque Arbico. Donc le premier tome s'appelle Liberté, est sorti en octobre dernier dans la collection Astrolabe aux éditions Cadran, et il est en dédicace cet après-midi, place du Capitole, pour le festival de la bande dessinée. Il y a peu de gens qui viennent le voir. Et c'est vraiment dommage parce que voilà, il est vraiment
très simple. Connu. Et puis, bon, alors si vous voulez le voir, il est on peut citer la librairie qui l'accueille ou non ?
Je ne sais plus. Ouais.
Il est dans.
Non, mais je ne sais plus si c'est vraiment une librairie.
Bon, ben il est dans la tente de Cultura.
Voilà. Sachant que les deux autres librairies qui sont sur place, il y a la librairie Gilbert Joseph de Toulouse et surtout Terre de Légende. Donc il est à Cultura et je crois qu'il y a d'autres séances de dédicaces normalement qui sont prévues. Mais en tout cas, cet après-midi sera l'occasion de le voir au soleil, tranquillement, et il est vraiment accessible, donc ce serait dommage de passer à côté. Voilà. L'interview a été enregistrée hier et fou. Il fallait vraiment qu'on la passe en entier, c'était obligé. Vous écoutez Radio FMR 89.1 MHz, 12h54 sur la poubelle des radios, sur le supplément week-end qui était censé être au festival de la bande dessinée de Toulouse, place du Capitole. On va faire un tribute au grand ancien, au pionnier du hip-hop, ça tombe bien, c'est le nom du morceau Hip Hop Pioneers par DJ Cam.
Electromagnetic beam, I get charged. And no, we don't make whack tracks. And all the suckers get pushed back when I'm getting real facts. My DJ's mixing, and I do the quiz. Waking in the morning, I still represent the me. I'm a legend of my time, 95 is mine.
And I don't gang bang, or shoot out bang bang. I don't gang bang.
Check out my melody, hand out a cigar. I'm the electromagnetic being, I get charged. And no, we don't make whack tracks. And all the suckers get pushed back when I'm getting real facts. My DJ's mixing, and I do the quizzing. Waking in the morning, I still represent the need. I'm a legend of my time, 95 is mine.
I don't gang bang, or shoot out bang bang. I don't gang bang, gang bang, gang bang, gang bang.
Allez, on va parler de quelque chose de beaucoup plus drôle, mais toujours dans les minorités opprimées, voleuses de... pas de réputation, non, de poules. Avec l'honneur d'être sa robe, le premier tome s'appelle « Cellule familiale » est sorti en janvier dernier. Et c'est une étude comportementale d'une famille nomade de gitans à l'ère intersidérale. menée par le professeur Wilfried Lupano sur une documentation iconographique de Paul Coe et que l'on a rencontré tous les deux hier. Alors au pluriel, cellule, car le dossier est juridiquement épais. Maître Sauzet est un jeune avocat inexpérimenté, cela se voit, il a des scrupules, qui vient d'être se voir commis d'office pour défendre Lubna Tsarom, mère de famille d'un clan de gitans. Gros problème, en allant parler à son compagnon de la stratégie de défense qu'il envisageait, eh ben, Maître Sauzet ne pensait pas se retrouver impliqué dans toutes les petites affaires de la famille, le business, quoi. Oh, des broutilles, les pièces détachées sont prises par terre, les armes lourdes ont été dénichées sur le bas-côté, les armes de destruction massive trouvées par hasard dans une benne à ordures. Pas de quoi fouetter un chat, quoi. Là où ça se gâte pour le pauvre Sauzet, c'est qu'il y a en plus du délit de fuite. Elle est très belle, Rona, la fille unique du Tsarom. Eh oui, le bavard du Béguin. Eh ben, on a rencontré les auteurs Paul Coe et Wilfried Lupano hier à Place du Capitole. Wilfried Lupano, bonjour.
Bonjour.
Paul Coe, bonjour.
Bonsoir.
Ah oui, c'est vrai, Coe ne passe que le soir. Non, elle était nulle, d'accord, désolé. Donc vous êtes respectivement les scénaristes et dessinateurs de L'Honneur des Tsarom, dont le premier tome est sorti chez Delcourt il y a environ 3 mois. N'ayons pas peur des gros mots, mais moi personnellement, quand j'ai lu L'Honneur des Tsarom, j'ai tout de suite pensé à un autre univers tout aussi frappadingue, à la fois pour le scénario et pour le style graphique, à savoir les Womox de Boulet et Renault, un hasard complet.
Pas complètement graphiquement, parce qu'en fait Paul, ça fait partie des bouquins qu'il aime bien, sur l'univers, hasard complet, parce que je les ai pas lus. Donc
si, moi en fait je veux pas dire que je m'en suis inspiré, mais quand je suis sur cette série il y a quelques temps, je commençais à travailler sur L'Honneur des Tsarom et je me suis dit, ah, c'est peut-être une direction graphique que j'aimerais bien rejoindre, parce que c'est un peu ce que j'avais en tête aussi. Et puis comme le dessinateur il est vraiment pas mauvais, j'ai dû me faire une culture SF en fait, que j'avais déjà par le cinéma, par d'autres séries BD, mais je trouvais que ça ressemblait pas mal à ce que j'avais en tête en fait.
Quand tu disais t'as commencé à ce moment-là, ça veut dire que t'es aussi long que Renaud justement?
Non, mais je sais plus trop, mais en fait j'ai commencé à travailler sur L'Honneur des Tsarom, alors que j'étais en train de finir à Aster, quoi. Forcément, je faisais des recherches pendant ce temps-là sur les derniers albums.
Aster, donc, qui est une série complète que tu as fait auparavant. Maître Sauzet est un avocat commis d'office, un petit peu naïf, une expérience malheureuse avec le monde judiciaire sur le rang des accusés.
Non, même pas, j'étais plus intéressé. Oui, j'ai eu des expériences malheureuses avec le monde judiciaire, mais ça n'a pas influencé mon écriture. C'est plus l'intérêt, c'est de transposer un univers dans un autre. Attends, on va la refaire parce qu'il y a mon fils à côté. Eneko, j'essaie de parler.
Alors donc, pour ceux qui n'ont pas la couleur, en fait, c'est un charmant petit bambin de 4 ans, très turbulent et qui est en train de tirer la langue en tapant très fort sur la table, mais c'est pas passé au micro, donc on avait strictement rien à foutre. Et là, je meuble, en fait, mais vous inquiétez pas, on va la passer uncut, cette interview, c'est-à-dire que c'est du temps réel, complet. Donc non, absolument aucune... Non, t'as pas à t'excuser, mais je veux dire que effectivement les services sociaux t'ont fait passer devant les tribunaux sociaux, hein, pour l'éducation de ton gosse.
Non, oui, ouais, c'est ça, voilà, la date. J'essaie de le récupérer, j'y arrive pas. Bon.
Non, je sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Non, moi, je dessine ce qu'il demande. Hein. Je veux pas de problème de toute façon.
Alors justement, le duo de choc que forme Tony et l'avocat, de vous deux, qui c'est l'avocat, qui c'est Tony?
Physiquement, c'est moi l'avocat et c'est lui Tony, clairement. Enfin,
Wilfried Lupano, je passe à Coe.
T'as un peu un physique d'avocat, c'est vrai, avec un gros noyau quand même, faut dire. Un peu trop mûr d'ailleurs, l'avocat, hein. On n'a pas mangé assez vite.
Non. C'est pas lui plutôt qui a plus la barbe de Manouche?
Qui?
Pardon. Qui a la barbe de Manouche?
Oh non, arrête. Ah là oui, non, mais c'est vrai que je me suis taillé la barbe il y a 2 jours, donc forcément, mais en général j'ai plus de barbe, enfin on est barbus tous les deux. Et puis qu'est-ce qu'on s'en fout en fait, hein.
Un bavard parmi les manouches, qu'est-ce qu'il y a de plus drôle finalement, la contradiction, le côté théâtral?
Le début de la... Excuse-moi, mais...
Un bavard parmi les manouches.
Bavard, ouais. Ben, ces deux univers qui a priori... se côtoient rarement, ou alors voilà, qui n'ont pas grand chose à se dire, et ce qui m'intéressait, c'était d'arriver à faire en sorte que un jeune avocat frais et moulu de la fac de droit et un escroc gitan se retrouve par la force des choses à devoir faire cause commune. C'était ça un petit peu le ressort comique. C'est quelque chose d'assez classique finalement en aventure comique. C'est de faire en sorte que les opposés soient obligés de cohabiter, quoi.
Graphiquement, comment t'as réussi à ne pas devenir épileptique quand tu as commencé à attaquer les couleurs de l'intérieur du vaisseau des Tsarums ?
Si, j'ai perdu 4 dixièmes à chaque œil, hein, je tiens à le préciser, que Delcourt ne me remboursera pas d'ailleurs assez rond.
Et encore, la première version était pire, on lui a demandé de se calmer.
Voilà, les gens ont eu peur, c'est dommage, parce que j'avais vraiment quelque chose à dire. Oui, c'est vrai que... Alors en fait, j'ai pas inventé grand-chose, parce que je suis tombé sur un magnifique bouquin de photos de Zigan en Roumanie, faute de Zigan actuelle, et quand on voit à l'intérieur de leur roulotte ou de leur maison, mais c'est clairement ces couleurs là, c'est à dire ces roses fuchsia super forts, saturés, des jaunes, des verts, des bleus, des couleurs absolument immondes qu'on ne mettrait jamais à côté, et bien bizarrement c'est rempli de ces couleurs là dans leurs intérieurs, donc voilà, c'est un peu ma bible graphique,
et c'est très beau, disons-le.
Oui, en fait, il dit ça, c'est pour se racheter, parce que c'est vrai que après avoir dit gitan, escroc, on était limite là. D'ailleurs, à propos des clichés, justement, une belle gitane qui danse pour montrer quelle est la plus forte, quelle est la plus virile et tout ça. C'est pas un peu fumiste comme cliché ? Fumiste, cliché, référence paquet de clopes gitane.
Non, je crois vraiment pas, parce que quand on côtoie un peu l'univers des gitans, ce que je n'ai pas manqué de faire à plusieurs périodes de ma vie, ça se passe vraiment comme ça, quoi. Donc désolé pour ceux qui pensent que c'est des clichés, mais qu'ils aillent un petit peu plus souvent dans les camps de gitans ou qui côtoient des gitans. La plupart du temps, je pense que ceux qui passent énormément de temps à s'exprimer sur les clichés des autres, en ont eux-mêmes un certain nombre dans leur tête et parlent souvent de ce qu'ils connaissent pas. Voilà. Moi, je suis pas un spécialiste des gitans, mais je connais pas mal l'univers des gitans pour l'avoir côtoyé dans une partie de ma vie. Et je peux dire qu'il n'y a pas grand-chose de cliché dans ce qu'on raconte dans l'album. Et en plus, tout ça, c'est pas une œuvre sociologique, hein, sur les gitans, hein, c'est avant tout de l'aventure burlesque pour se marrer, voilà.
Et puis bon, effectivement, la Rona est très jolie, sexy, pulpeuse, mais il y a aussi des gitanes fortes à propos, hein, c'est-à-dire bien rondes, voilà, avec des poils sous les bras et des pustules, enfin des beaux grains de beauté au coin de la bouche. Donc voilà, il y a un peu de tout. On a mis du tissu adipeux.
La quatrième de couve est un petit peu mensongère, je cite « un mélange de George Lucas et d'Emir Kusturica ». En même temps, c'est difficile quand même d'imaginer Han Solo autrement qu'en vrai gitan, avec la guitare en bandoulière, la bandana dans les cheveux, la vierge fluo sur le tableau de bord, la bestiole féroce sur le siège passager, et les couteaux dans les manches et la caravane tractée à l'arrière du Faucon Millenium. Pensez que c'est... Vous auriez été déçu si justement ça avait vraiment été comme ça, Star Wars ?
Ah non, moi j'aurais préféré, personnellement j'aurais préféré. Je trouve que ça manque, hein, dans Star Wars.
Joker.
non, on ne cite pas le nom des éditeurs concurrents. Attends, sinon je l'envoie à Monsieur Guy D. D'un autre côté, tu t'es établi grâce à la série Aster qui était plus orienté fantastique et beaucoup moins burlesque. C'était un besoin de rompre les ponts, justement, l'honneur des Tsarums.
En fait, oui, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien, parce que en tant que lecteur ou même spectateur sur le cinéma, c'est que j'en ai un peu marre, je suis fatigué de ces histoires avec les héros grands, forts, costauds, qui affrontent des méchants et moches, tout ça. En fait, ça me correspond plus, ce type d'histoire, la comédie. C'est vraiment, j'ai envie de prendre du plaisir, de rigoler en dessinant, et de faire rigoler. Et je pense que c'est gagné là-dessus. Et oui, l'histoire me fait vraiment énormément rire. J'aime beaucoup les personnages. Je me suis vraiment attaché à ces personnages. Donc j'espère que les gens s'y attacheront aussi.
Ah, ça te ressemble vraiment. Ah bah ça tombe bien, Paul Coé, parce que si j'en crois ta fiche sur la Wikipédia, Jet Setter invétéré au début des années 2000, les tabloïds lui prêteront plusieurs liaisons avec des célèbres comédiennes françaises et un mannequin australien. Paul est également connu pour ses talents de cuisinier et sa spécialité, le Paul Coco. Et chapitre citation, ça se verra mieux à la couleur et il n'y a pas d'alcool dans ce verre. Alors juste une question, c'est toi qui écris les dialogues, Wilfried Lupano, ton scénariste à côté, c'est lui qui a saccagé ta page Wikipédia, tu t'es fâché avec quelqu'un, tu étais bourré ce soir-là, ou vraiment énervé de ne pas être dans le dictionnaire mondial à la bande dessinée de Patrick Gomer, édition 2010 aux éditions Larousse là.
Alors oui, je devais être bourré. Non, c'est pas moi qui l'écris, non, c'est pas Wilfried, non, c'est tout simplement un copain qui s'est dit, qui m'a demandé un jour, ça te dit que je fasse ta page Wikipédia? Je dis oui, vas-y, fais ce que tu veux. Effectivement, il a mis ce qu'il voulait. Mais il y a des trucs vrais là-dedans quand même. C'est vrai que je fais un très bon gâteau.
Rien, c'est vrai.
Oui, voilà. Et le gâteau à la noix de coco aussi. Et c'est vrai que ce jour-là, il n'y avait pas de verre dans mon alcool.
D'accord. Est-ce que le gâteau à la noix de coco, on aura la recette sur ton blog?
Ouais, pourquoi pas, ouais, c'est un truc tout simple. Oui.
Le seul mannequin kangourou qui a un tout petit peu fait carrière au niveau international, c'était sa meuf pendant longtemps.
Alors, à la fin, on voit suite et fin de l'épisode, c'est de la série ou de l'arc?
Ah, ben c'est la fin d'un épisode, donc un épisode, ce n'est pas une série. Donc oui, en fait, le projet, c'est qu'on fait des diptyques, en fait, des histoires en deux tomes, voilà, des petites aventures.
Voilà, on aimerait bien, après c'est un peu les lecteurs qui décident aujourd'hui si la série elle continue ou pas, mais nous ce qu'on propose à chaque fois c'est aventure en deux tomes, ça permet de développer des intrigues un petit peu plus denses et d'avoir quand même le temps de rigoler. Si dans un album, comme on a beaucoup de personnages, si on passe beaucoup de temps avec sur les dialogues un peu savoureux entre les personnages, etc. Souvent, c'est un peu sur un 46 pages, c'est au détriment de l'intrigue qui va être un petit peu simpliste. Alors que sur un 2 tomes, on a la possibilité de développer une intrigue un peu plus dense et de pas s'empêcher des petites scènes burlesques. Voilà, c'est le format nous paraissait meilleur en fait. Donc, ce qu'on aimerait bien pouvoir refaire à chaque fois, c'est ça, c'est aventure en 2 tomes systématiquement.
Ouais, j'allais poser la question sur les spin-offs, mais en fait tu viens de répondre, donc il n'y a pas besoin de spin-off si vous vous concentrez juste sur quelques personnages à chaque fois.
Bah oui, moi je me méfie de ça, enfin, je trouve qu'aujourd'hui on vit plus que par ça dans la bande dessinée, et personnellement ça me saoule, donc je vais le dire en toute franchise. Peut-être un spin-off sur la vie de Django, mais ça sera tout.
Alors, la dernière question pour Wilfried Lupano. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faut-il craindre de plus, la vengeance des gitans qui se sentiraient particulièrement humiliés par cette bande dessinée, ou les foudres de Sarkozy?
Alors, sur les gitans, on a envoyé l'album à Rona Hartner, qui est la... Rona Hartner, c'est l'actrice chanteuse roumaine qui a notamment joué dans Gadjo Dilo de Tony Gatliff, qui est l'égérie de la musique roumaine en France depuis une quinzaine d'années, et qui joue en ce moment au Bataclan à Paris, parce que c'est un peu en hommage à elle que j'ai appelé le personnage de Rona. Rona, on lui a envoyé l'album et elle a trouvé ça excellent, elle le met sur son blog, elle nous a demandé des dessins originaux pour mettre sur son blog, donc je pense pas que les gitans se sentent particulièrement choqués par ce qu'on a écrit. Eux ils savent que je vois pas ce qu'il y a d'insultant dans les gitans, pour les gitans en fait, dans ce qu'on, enfin en tout cas j'espère pas, parce que moi j'adore l'univers des gitans, donc j'espère pas. Et pour Sarkozyx, je vous dirai les foudres de Sarkozyx, je vous dirai, parce que ça vient de sortir, donc
oui, les redressements fiscaux aussi, c'est pas encore la saison.
Ouais voilà, mais c'est l'avantage d'être auteur de BD, on est souvent pauvre, donc on a rien à craindre fiscalement, on a rien à craindre. Ouais.
Wilfried Lupano, merci. Paul Coé, merci beaucoup.
Avec plaisir.
On vous en supplie.
Oui, parce que c'est une chose que j'ai oublié de préciser. Wilfried Lupano est entre autres scénariste de Little Big Joe, L'Ivresse des Fantômes, Célestin Gobelun, mais surtout des Aventures de Sarkozyx qui sont arrivées, qui ont été publiées en avril, je crois, dessinées par Bruno Basile, toujours chez Delcourt. Voilà, et vous pouvez rencontrer donc tous ces auteurs aujourd'hui et demain, place du Capitole, pour ceux qui nous écoutent en direct, hein, donc c'est samedi et ce samedi et dimanche 9 mai, place du Capitole, jusqu'à 19h à peu près. Ils sont
Il y a un sacré programme, hein, il faut le dire. Paul Coué, donc on a parlé, Coyote, Frank P, Serge Ernst, Pat Mills, qui est extrêmement rare, hein, il vient pas si souvent que ça en France, donc autant en profiter. Marne Guessan, Eric Stallner, Patrick Sobral, on a plein d'auteurs qu'on aurait aimé interviewer, mais là déjà on avait de la matière pour aujourd'hui, c'était plus qu'intéressant, j'espère en tout cas. Ali Mahmoudi pour Arabico et Paul Coué et Wilfried Le Panneau pour l'honneur des Tsaroms. Supplément week-end continue après un petit peu de musique. Ah, vous l'attendiez, ça là. Peace Orchestra Shining. Thank you. l'orchestre Shining, extrait de l'album Epinomine. Ah. Toi, t'as pas beaucoup bossé, hein. Arrête de te foutre de ma gueule.
C'est vrai, c'est vrai.
Bon, alors ça va être à toi, attention, le cœur des vierges. Movies with Ultimatum.
Paf. Voilà, allez, aujourd'hui on va parler de barbares un petit peu pour trancher avec la SF et avec la BD engagée. Avec aujourd'hui Outlander, le dernier viking. Et ça parle, attention, je vous donne en mille de viking. Ah, on applaudit s'il vous plaît. Voilà, tiens, le DVD. Voilà, je le passe à
la Screech. Oui, oula, c'est ouf, c'est des vikings avec un design un petit peu...
bizarre, avec une espèce de...
gothique un peu, il y a des trucs qui volent.
Oui, voilà, donc en fait c'est un mélange de science-fiction et de...
Par le producteur
du Seigneur des Anneaux. C'est un film super réalisé par Howard McCain avec Jim Caviezel, Sophia Miles, John Hurt, Ron Perlman.
Alors, ils sont obligés de marquer sur le dos de la jaquette super production au budget de 45 millions de dollars. C'est parce que ça n'a pas fait suffisamment d'entrées, c'est ça?
C'est parce que oui, il est sorti un peu en catimini et il a eu une distribution un peu merdique. Forcément, il y avait Harvey Sizer Hands derrière puisque c'était les frères Weinstein. Voilà. Donc,
forcément.
Donc le film est édité en DVD chez Wildside. Et alors, le pitch, c'est le suivant. Venu de l'espace, le vaisseau de Kainan s'écrase sur Terre en plein territoire viking. Mais une créature extraterrestre, le Morwen, était à bord. Dans un premier temps, fait prisonnier par les hommes de Hrodgar du village d'Eroth, Kainan s'allie à eux pour neutraliser le Morwen qui dessine tout sur son passage. Alors, la jaquette, il y a marqué derrière, la rencontre grandiose entre le 13e guerrier et Alien. Alors, c'est vrai qu'il y a de ça, mais c'est vrai aussi que ça vous fait furieusement penser à Beowulf, puisque le guerrier venu de nulle part pour aider un village à se débarrasser d'un monstre, et ben oui, c'est Beowulf. Sauf qu'à l'époque, le réalisateur Howard McCain a toujours été très très fan de Beowulf depuis qu'il a étudié au lycée, et à l'époque, c'était avant Gladiator, avant Le Seigneur des Anneaux, et avant la nouvelle vague de l'heroic fantasy. Et donc Beowulf, ça faisait un peu peur à tout le monde. Donc du coup, il a maquillé son projet Beowulf en film de monstre, et c'est pour ça qu'il a changé tous les noms. Et l'essence de l'histoire, ça reste Beowulf, mais ça a été maquillé en film de SF avec une rencontre avec les Vikings. Donc voilà, bon, ça c'est fait. Les noms des personnages, on peut pas se tromper. C'est alors tu as une Freya, une Boromir, un Boromir dedans. Donc ça fait penser à des trucs. Hein.
Ça a rien à voir. C'est plus mignon d'habitude.
Mais Boromir, tu nous offres des friandises. Mais allons, les hobbits, vous savez bien que nous avons des crevettes au lol à la maison. Bon, ça fait penser à un sketch, voilà.
oui, tout à fait.
Alors, au final, Outlander, le dernier viking, bah, c'est une pure série B. Hein, mais la série B, c'est pas GG, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est pas raté non plus. Donc ça a quand même ce mérite-là. C'est un bon petit film de genre honnête. Je sais que
le... De genre honnête ?
De genre, c'est un film de genre. Le film est honnête. Il est réalisé honnêtement. Il est pas raté. Il y a des beaux effets. Il y a des bons effets spéciaux qui sont pas trop.
Tu veux dire qu'il y a pas de crapule
Ouais, voilà. S'il y a des
il y a eu un putain de blanc là. Oula.
Voilà. alors le genre heroic fantasy est super casse-gueule et c'est vrai qu'on a vite fait de sombrer dans le lourdingue et le ridicule. Là, c'est pas le cas. Parce que ça, c'est quand même assez burné. Tu as une fille, je crois. C'est rempli de poncifs. Le monstre, il fait son garde-manger avec des gens. Évidemment, le seul humain qui ne mange pas, c'est la nana du héros. Forcément, parce qu'il va falloir qu'il a délivré dans l'antre de la bête. Le monstre, il attaque que la nuit parce que forcément pour les effets spéciaux c'est mieux qu'à
moins cher.
Il y a la nana dont le héros est amoureux, il y a le gamin qu'il va adopter parce que le gamin, tu comprends, il y a ses parents qui ont été tués sous ses yeux et puis il est traumatisé, mais heureusement le gamin il va apporter un petit peu le confort et le côté humain à Kainan qui, rappelons-le, est un extraterrestre. Voilà, donc un extraterrestre humanoïde, évidemment, ça tombe bien, hein, pour copuler, pour...
Oui, mais c'est
ce que tu dis à chaque fois pour...
Voilà.
Alors le cadre, ce qui fait l'originalité du truc, c'est que le cadre à l'époque apporte un côté exotique au simple film de monstre. Si c'était juste un film de monstre à New York et tout, ça aurait pu être pas raté, ça sortait pas du lot. Par contre là, effectivement, comme c'est avec des vikings, comme tu as des soldats qui sont barbus avec des grosses épées, donc franchement ça passe mieux. Et puis on a aussi la surprise du casting. On a Jim Caviezel qui avait interprété Jésus dans La Passion du Christ de Mel Gibson et aussi dans La Ligne Rouge, il jouait un soldat pour Terrence Malick. On a également John Hurt qu'on ne présente plus, qui se faisait exploser le bide dans Alien notamment. Et on a Ron Perlman. Alors Ron Perlman, j'ai vu une interview de lui pour le film. Alors il interprète le chef de du village des adversaires du village dans lequel Asteri Kainan, et donc c'est un chef de village, un chef de meute au crâne chauve avec une énorme barbe, et il dit ce qui est génial avec mon personnage, c'est que on parle de moi pendant une heure, et puis je fais une apparition de 10 minutes, et après que je sois parti, eh ben on continue à parler de moi. Alors le réalisateur explique que Ron Perlman, oui effectivement c'était un rêve de l'avoir dans le film, et bon sans cacher ne lui permettait pas d'utiliser Ron Perlman plus de 2 jours. Donc c'est pour ça qu'il apparaît très peu dans le film. Bon, évidemment, vous dites, c'est un film de monstre.
Mais qu'il est en 3e place sur le crédit jacket.
Voilà. Bon, alors évidemment, vous savez que c'est un film de monstre. Alors à partir du moment où on dit qu'il apparaît pas beaucoup, bon, on sait très bien ce qu'il advient du personnage. On a un peu spoilé, mais voilà. Bon. Ensuite, le film... c'est un mélange de science-fiction et de fantasy, mais la science-fiction est très vite escamotée dans le film, hein, puisque toute la partie atterrissage de vaisseau en catastrophe, l'extraterrestre qui apprend la culture de l'époque dans laquelle il est arrivé, parce que l'ordinateur lui dit « Vous êtes tombé dans l'âge de fer de la planète, etc. » Bon, allez, je vais apprendre le langage de la planète, etc. Et à partir du moment où il rencontre pour la première fois le monstre, il est débarrassé de son canon à positron, enfin son espèce de gros pistolet laser, voilà. Donc là, en l'espace de temps trois mouvements, il y a tous les éléments SF qui sont partis, et c'est juste un extraterrestre qui se retrouve au milieu des vikings, qui connaît leur langue et tout, donc il va juste avoir les mêmes armes qu'eux, puisqu'il n'a pas de pouvoir et il a plus de pistolet laser.
C'est bête.
Ce qu'il y a d'intéressant aussi dans le film, c'est qu'on va dans le crescendo. Donc au départ, t'as l'ignorance des vikings, donc un alien qui est propulsé dans l'âge de fer, il est fait prisonnier, donc ils savent pas trop qui c'est. Il dit qu'il est venu chasser un dragon, donc il dit ouais c'est ça, ouais. Et puis finalement après, quand le monstre commence à faire des dégâts, ah oui c'est ça ton dragon, oui effectivement. Donc là il y a le Kainan qui va devoir convaincre les vikings de s'associer à lui pour essayer de neutraliser le monstre. Il va y avoir mise en place de stratégie pour le piéger. Attendez, moi j'ai la cervelle, laissez-moi tout faire, je vais vous faire un plan concocté aux petits oignons et tout. Et puis après, plus on en apprend sur le passé de Kainan et plus justement la nana va tomber amoureuse, parce que oh là là, mais tu es survivant d'un monde qui a presque explosé, parce que vous avez un gros passif avec ce Morwen, parce qu'il n'est peut-être pas seul, et s'il n'était pas seul sur ta planète, et bien on sait jamais, dans les films de monstres il y a toujours un petit
ouais, il y a toujours une femelle et il y a toujours des œufs.
Voilà, tu as tout compris, tu as vu le film.
Ah mince, non. J'ai spoilé.
Non, c'est pas tout à fait ça, mais t'es pas loin. Bon, alors voilà, soyons honnêtes, le film il prend pas aux tripes, t'es pas les ongles plantés dans le cuir du canapé en disant oh là là, mais que va-t-il se passer. Tu savoures, tu dis tiens, c'est pas mal, c'est pas très original, mais ça a le mérite d'être sympathique, les acteurs sont bons, les effets spéciaux sont pas ratés, c'est pas original, mais c'est pas raté. Donc voilà, Outlander a un fond capital sympathie. Outlander, le dernier viking, est disponible chez Wildside en DVD, réalisé par Owen McCain, avec Jim Caviezel, Sophia Miles, John Hurt et Ron Perlman. Et il est sorti il y a quelques mois déjà.
Oui, non, je me suis pas foulé ce matin sur la prog.
Ah ben, on a mis du Conan, hein.
Ah ouais,
ça fait toujours son petit effet. Et puis vu le nombre de films... de barbares qu'on chronique, ça...
Ouais, il y en a peu qui ont une bande-son qui déchire vraiment, quoi.
Bah surtout qu'on n'a pas les BO.
Oh, chut. 13h29, ouh, on termine à l'heure. On s'est dit qu'on avait peut-être débordé, là. Bah non, finalement, non. Et, peut-être qu'on se croisera cet après-midi, place du Capitole, pour la fête de la BD à Toulouse. On remercie énormément pour ceux qui sont mis en 4 pour pas grand chose finalement de notre part, c'est-à-dire la librairie Terre de Légende, l'organisation de la mairie aussi, et Kinou du service technique de la radio. Vraiment désolé, on n'a pas pu le faire, mais néanmoins l'émission a eu lieu et avec du son enregistré sur place. Et ta chère amie, tu sais qu'il y en a qui nous écoutent en direct à la radio, voire en stream comme ça par hasard, voire des fois qui ont zappé une partie du podcast et qui arrivent sur la fin et qui se disent « Mon Dieu, mais est-ce que j'ai loupé des choses ?»
Mais oui, tout à fait, beaucoup de choses aujourd'hui puisqu'on a eu deux interviews BD et une chronique DVD. Ben ouais, il n'y a pas du sport, j'ai pas écrit mon résumé pendant qu'il faisait sa chronique. Non, on a eu l'interview de Wilfried Lupano et Paul Coé pour L'honneur d'être sa Rome, et l'interview d'Ali Mahmoudi pour Arabico tome 1, et ainsi que du barbare viking croisé avec de la SF. Voilà. Et c'était donc une émission quasiment spéciale à 80% en Festival BD de Toulouse.
Waouh, trop génial! Heureusement, si vous avez manqué tout ça, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission ainsi que des précédentes émissions sur le site web de notre émission, mais aussi retrouver les chroniques écrites, par exemple celle de Dengeki Daisy, Bad Girl, Un jour sans, Le pavillon des hommes, Le dictionnaire mondial à la bande dessinée, aux bandes dessinées et tout le reste, mais aussi nous écrire, jouer à des quiz stupides, laisser vos commentaires, poser vos questions, n'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web de l'émission. Supplémentweekend.fr, sans accent ni tiré, supplémentweekend.fr. Ah ah! Vous écoutez Radio FMR sur 89.1 MHz, nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM et en continu 24h/24 sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, ce sera dans 15 jours. Et je ne sais pas ce qu'on va proposer.
On aura peut-être un homme de fer, on ne sait pas.
D'accord, ok.
Et voilà, peut-être aussi un film psychédélique avec du stroboscope, peut-être.
Waouh, c'est trop génial. On se retrouve in a fortnight, qu'on dit de l'autre côté du channel, on se dit encore, mais lequel de ces trois hommes politiques on va mettre en locataire du Tendon Street. Et rendez-vous, même heure, même fréquence. Ciao, bye bye.
Am na bus nay am fi dom yuram nyanti wer la ga ëmbeu.